Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Troisième rencontre, 68, une histoire d'amour. Une des femmes que j'aime, par exemple, c'est 68, écrit Philippe Solers curieusement dans La guerre du goût. Et il s'en explique. Liberté, bien sûr, jeunesse, plaisir, un style de mai, sensuel, irréversible. Il y a bien un après et un avant 68. Mais lui, dans tout cela.
C'était pas spectateur, c'était pas journaliste, c'était pas observateur, c'était acteur. L'essentiel de son 68 est rarement dit. C'est recouvert, alors là aussi, comme Vichy, comme la guerre d'Algérie, comme le massacre de Katyn, où il faut 50 ans pour s'apercevoir que c'était pas les Allemands, mais que c'était les Russes qui ont fait ce charnier épouvantable, etc., etc. C'était avant tout des histoires physiques et individuelles, fortes, très fortes. Quelque chose a sauté brusquement. Le ministre sport, je sais pas quoi, vient inaugurer une piscine à Nanterre. Ça éclate sur le fait que les filles ne pouvaient pas rejoindre les garçons dans leur chambre. C'est là où un certain Cohn-Bendit commence à se signaler à l'attention. Le ministre fait un discours du genre « mens sana in corpore sano ». Tout à coup, tout le monde lui rit au nez et c'est parti. La police intervient. Personne ne s'attendait. Évidemment, la situation était mûre, comme on l'a dit après coup. Mais sur le moment, c'était totalement improvisé. Les discours politiques, les engagements Mao, etc., c'est extraordinairement relatif. Personne n'avait de discours vrai à proposer, sauf les situationnistes avec leur... Puis ceux qui reprenaient les slogans un peu surréalistes autrefois. Bon, mais en fait, ça a été extraordinairement personnel, 68. Ça a été un moment de liberté absolument considérable.
Oui, c'est intéressant que vous disiez que c'était quelque chose de personnel. Oui. On ne le dit pas souvent. On parle plus d'un mouvement collectif. Enfin, chacun a vécu en fonction de sa propre histoire.
Mais qui s'écrivent leur histoire personnelle. Mmh. C'est qu'ils parlent de leur enfance, qu'ils parlent de leur adolescence, qu'ils parlent de ce que c'est qu'une société qui explose et du rôle et de l'endroit où ils étaient, avec qui ils étaient. Moi, le plus souvent, j'étais avec une amie absolument délicieuse et on fumait du hashish toutes les nuits, vous comprenez. C'était pas bien et c'était splendide.
En France, depuis le 3 mai 1968,
dans un climat de désordre et de violence,
il n'y a plus d'État.
Vous trouvez ça normal ?
L'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens demandait rupture.
Soyons tout.
Alors, quel est votre vrai problème à vous ? Exposez-moi votre cas.
De même que les adultes au moment où les Allemands sont rentrés à Paris, se sont montrés ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des nuls. De même, pendant la guerre d'Algérie, l'armée s'est montrée ce qu'elle avait trop tendance à être en pénalisant le contingent. Beaucoup d'amis à moi sont morts ou ont été complètement perturbés. On voit surgir. De même, en 68, on a vu à quoi ressemblait l'université qui est maintenant détruite. On accuse 68 d'avoir détruit tout. Voilà. La famille, la morale, le sexe, l'amour, l'université. Enfin, bon, voilà. En réalité, ça, c'est de la propagande. Ce sont des gens qui ont eu très, très peur et qui sont de retour et qui voudraient qu'on revienne en arrière. Il y a une phrase de Stendhal admirable dans la Chartreuse de Pape. Tout ce qui était vieux, morose, dévot, reprit le contrôle de la société, la direction même de la société. Donc la société, de temps en temps, celle du spectacle notamment, parce que les grandes années là de préparation sous-jacente, c'est évidemment 65, 66, 67, 68, est une sorte d'explosion. Donc vous avez là des livres quand même fameux, notamment le plus fameux qui est La société du spectacle de Debord. Le mot spectacle, il faut comprendre que c'est le spectacle, c'est pas seulement la télévision, la radio, enfin le spectaculaire qu'on croit, c'est tout. C'est-à-dire le fait que que désormais, à l'étape où nous étions déjà en 68, mais alors en ce moment à plein régime, vous êtes dans un monde artificiel où chacun est obligé de jouer un personnage de comédie. Et vous savez l'auteur qui est le plus moderne, à mon avis, ça, je suis en train d'écrire sur lui pour l'Observateur, mais je viens de passer 15 jours d'ivresse, de fou rire et de liberté. Avec qui ? Avec Molière. C'est splendide, Molière. Eh bien, quelles sont les comédies que Molière écrirait aujourd'hui ? Tout le monde célèbre Molière, la comédie française, ça, on le joue en costume. Mais enfin, la puissance révolutionnaire de Molière, qui a été, comme vous savez, comme on évite de le dire le plus souvent, très protégée par Louis XIV. Parce qu'on fait comme si... l'anarchisme de Molière, admirable. Eh bien, moi, je vous propose des pièces nouvelles. Ce serait Le président gentilhomme, L'école des mannequins, Les précieux ridicules, Le banquier fou, Tartuffe ou le philosophe imposteur, L'avare milliardaire, Le philanthrope hypocrite, Le pédophile archevêque, La féministe dévote, Les musulmanes savantes, le névrosé imaginaire, le psychanalyste malgré lui, l'artiste ignorant, le trader cocu, les plaisirs du Dalai Lama, l'écrivain inculte, et vous pouvez continuer comme ça. Voilà des pièces splendides que Molière écrirait aujourd'hui. Et ça aurait beaucoup de succès, parce que ce ne serait pas seulement les guignols. Les guignols, c'est pas mal, mais enfin, il faut aller plus loin. Il faut saisir les personnages de l'intérieur.
Donc 68 vous a surpris, comme tout le monde, et vous a réjoui. Et vous avez retrouvé beaucoup de ce que vous étiez déjà depuis le début des années 60. Vous nous avez parlé de votre entrée dans le monde littéraire.
Je n'ai marché. J'ai beaucoup marché dans les villes. Hein. Beaucoup à New York, beaucoup à Paris, etc. Paris, beaucoup à Bordeaux, ville noire qui est maintenant blonde et ressuscitée. Jamais je n'ai marché dans une ville ouverte, suspendue, comme à Paris en ce moment-là. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir l'état dissous. Si on a une vague idée du fait qu'après tout ça, ce sont des contraintes. Participer à cette expérience de la dissolution de l'État ou des beurs anciens. Enfin, écoutez, l'ORTF, il n'y a rien que ce sigle. Bon, eh bien, peut-être qu'on va restaurer, à travers France Télévisions, une sorte d'ORTF, UMP, si vous voulez, ou n'importe quoi. Bon, alors, c'est un très mauvais point dans mon dossier, parce que maoïsme, patati, patata, patata, mais maoïsme, c'était une façon tout à fait conséquente, le mien, très personnel. Je n'ai jamais fait partie d'aucune organisation, jamais. Ça n'est pas mon genre. Mais qui était toutes d'ailleurs contaminées au plus haut point par le stalinisme antérieur. Mais l'histoire de la Russie, de Mao, ce grand criminel ahurissant, qui est vraiment thèse, antithèse, synthèse, Staline, Hitler, Mao. Mao, voilà. Bon, à ce moment-là, c'était la Chine, moi, qui m'intéressait. Et je suis allé après voir sur place, en rêvant de ce que ce serait dans 30 ou 40 ans. Nous y sommes. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'était pas question que la Chine soit en position d'être la première puissance économique mondiale. C'est fait. C'est en cours. Donc là, ce qui était intéressant, c'était d'attaquer le parti russe sur...
La vieillerie russe, russo-française.
Voilà. Ouais. Donc, moi, les cadavres dans les placards, c'est ça. C'est Vichy et Moscou. C'est réglé, dit-on. Il n'y a pas de jour où on nous en reparle et où l'ombre de Bousquet ne vienne frapper à la porte de l'Élysée en criant « Mitterrand, Mitterrand !» Voilà. Bon, quant à Moscou, le petit pâtissier Duclos, qui était fort, fort agité, faisait 22% aux élections présidentielles de 1969. 22%. C'est pas rien. Donc après, vous avez eu, en effet, la résurrection du Front National et autres péripéties de ce genre. Mais à l'époque, le carcan, c'était ce qui traînait de vichisme en France, malgré De Gaulle, parce que ça a été aussi une fantasmagorie bien réglée. C'est le fond. Il faut se méfier des Français. Hein. Il faut se méfier du fascisme français, du populisme, du fascisme français. Attention, attention. Il faut le sentir de loin. Et puis, il fallait le parti le plus puissant, c'était quand même le Parti communiste. C'était partout, dans l'université, partout. Comme ils ont eu peur, mon Dieu. Et les coups portés, là, sont irréparables, impardonnables. Impardonnable. Donc je suis mort pour l'université vers 1968. Ça. Heureusement que je peux squatter ma femme dans une université américaine en logeant chez elle en passant. Donc ça a été personnellement extraordinairement prometteur. Ça a été une révolution, une vraie. Pas une révolution ratée, une révolution.
Contre la poésie aragonaise, demander rupture, revue d'action surréalisme.
Le courrier du Vietnam, journal des combattants vietnamiens.
Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux.
Il se passe quelque chose. Et pour vous, Mao, à l'époque, était quelque chose de très important.
Mao, ça permettait...
Mais quand saviez-vous exactement? Parce qu'on nous l'a tellement dit après, tout ce que l'on ignorait.
Pas grand-chose. Mais ce n'était pas de Mao qu'il s'agissait, il s'agissait de ce qui se passait en France. Le jour où il y avait des affiches chinoises célébrant les révolutions de 68, ça paraissait admirable. Ce n'était pas la vie des partis communistes français ou même des Russes, qui étaient tout à fait épouvanté par ce qui se passait, comme vous savez très bien. Donc non, c'est l'expérience personnelle qui était là, la priorité. Et puis alors, quand même, les mouvements de libération ont commencé là, dans la société civile. Le front des homosexuels, bon, avant, maintenant. Maintenant, c'est devenu une force d'encadrement, en quelque sorte, du moins dans les grandes villes, pas en province. Bon, mais alors, le féminisme, les femmes, où étaient les femmes, que sont-elles devenues d'ailleurs? Enfin, écoutez, on est de nouveau dans un autre délire, c'est-à-dire quelque chose qui est régressif. Donc, à ce moment-là, ce qui avait lieu antérieurement paraissait tout à coup, mais le Moyen-Âge, entre une fille qui avait 25 ou 30 ans en mai 68, et sa mère, et alors n'en parlons pas, sa grand-mère, mais il y avait un abîme qui s'est petit à petit peut-être accorni. Enfin, parce que la société sait comment faire, lâcher du lest, pas trop, et même essayer de récupérer par derrière, etc., etc. Voilà. En tout cas, l'aventure personnelle, ça aussi, c'est rentré dans mes livres, tout simplement. Et c'est là.
Et vous dites que vous avez beaucoup choqué les Américains en disant publiquement « Votre souci principal à l'époque était d'être décrit par un dictionnaire chinois. » Mettons vers 2077, Philippe Solaire, c'est écrivain européen d'origine française, voilà, qui très tôt s'est intéressé à la Chine.
Et presque seul. Je connais quelques sinologues et quelques spécialistes de la Chine, mais comme écrivain, je suis désolé, ça ne les intéresse pas. Tant pis.
On rappelle que vous avez découvert de grands écrivains chinois et fait publier en France.
Oui. L'hexagone, c'est quelque chose, comprenez, d'où la révérence, la prosternation pour la marchandise américaine est profondément choquante. Il y a quelques écrivains américains extraordinairement importants, sans parler du passé, Hemingway, Faulkner. Le plus important aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un ami, comme c'est Philip Roth, j'en parle dans un vrai roman. Mais enfin, ce qui vous est vendu comme colonisé que vous êtes, comme le roman américain déjà mis en film, c'est en général absolument pas possible. Enfin, c'est très ennuyeux, ça disparaît. Donc voilà. Et les Français, si vous voulez, ils sont un peu... ça ressurgira peut-être un jour.
Vous y retournez en Chine?
Non.
Vous y êtes retourné récemment?
Non.
Vous êtes allé plusieurs fois?
Je préfère pas. Non, une seule fois.
Une seule fois?
Oui, une seule fois. À Shanghai. Je ne reconnaîtrai plus Shanghai aujourd'hui. Certainement pas. Lorsque nous sommes arrivés à Shanghai, le matin, j'ai compris quelque chose du corps chinois. Parce qu'il y avait un type sur un toit qui faisait des tai chi chuan. Vous savez, très lentement. Tout seul. Ne se demandant même pas qui le regardait. Tout seul. J'étais là en surplomb. Il ne me voyait pas du tout. Ensuite, je descends sur le Bund. Il y avait 1000 ou 1500 Chinois qui, le matin, il était 6h30 du matin. Même chose. C'est long. J'ai fait beaucoup de vélo à Pékin. Évidemment, d'habitude, je suis à Londres à ce moment-là. Il y avait très, très peu de voyageurs étrangers. Nous sommes en 1974. Très peu. Et donc, au feu rouge, j'étais environné de Chinois très silencieux qui me regardaient comme une bête curieuse, voyez-vous. La seule chose qui les intéressait, c'était de savoir si moi, je voyais la différence avec les Japonais, qui est évidente, mais que la plupart des Occidentaux ne voient pas. Vous voyez la différence entre un Allemand et un Français, peut-être quand même, si vous avez l'œil. Ça les intéressait beaucoup, parce qu'il y avait déjà des Japonais qui venaient, qui revenaient après les massacres considérables. Puis il ne faut pas oublier quand même, ça c'est quand même une chose assez positive, c'est la politique étrangère de De Gaulle, de ce point de vue, n'était pas tout à fait idiote. C'est lui qui le premier reconnaît la Chine. Bon, et Malraux, il va voir Mao, tout ça faisait quand même un peu légendaire. Et Mao Tse-tung qui lui dit, parlez-moi de Napoléon. Ben bon, c'était quand même à la fois cocasse et profond.
Mais elle vous attriste, la Chine, aujourd'hui ? Je suis
comme vous, je vois que tout le monde est obligé d'en rabattre, qu'on commence par mettre des écharpes blanches du charmant Dalai Lama, et puis de faire le fanfaron devant les Chinois, en leur donnant des leçons, ce qui prouve qu'on n'a rien compris à la façon de faire. Hein. Et je vois qu'après, on se couche, qu'on pose ses conditions, comme ça, à l'ancienne, hein, d'une façon raciste à peine caché. Comme si la Chine était un petit pays, vous savez, à qui on va donner des ordres. Mon Dieu, 1,3 milliard, ça va continuer. C'est la première puissance mondiale. Vous avez qu'à voir Shanghai ces temps-ci, l'exposition universelle, la leçon à donner au monde entier, les Jeux Olympiques. Eh bien, tout le monde est jaloux, tout le monde est inquiet. Le péril. La Chine m'inquiète. Bah, pas moi. Il faut mettre à l'intérieur maintenant ce qui est dehors, sous forme dure, circulation, grue, pont, poulie, feu, ascenseur, vitres mouillées, alternance des ciels, verre, façade sur les tables, le vin et l'eau. 100 000 aujourd'hui sur la place, la police dit 15 000, voilà son hélicoptère. Le parti donne le même chiffre, un peu plus peut-être. Stupéfaction hostile, fermée. D'ailleurs, où est-ce que ça peut mener ? Les ouvriers n'ont pas bougé, rien à faire. Vous ne pouvez pas continuer, camarades, c'est l'impasse. Rien ne peut avancer de cette façon. Et pourtant, elle tourne. Drapeau rouge partout, dans le vent, soleil. Il claque, il fait plus frais. Les immeubles commencent à s'ouvrir. Les bourgeois, sur les balcons, appareillent à l'œil. « Archiviste !» crie le petit qui chante depuis une heure dans son micro usé, tombé à la tâche. « Vaincu, tu dérasses la mort, lié, tué par des lâches. Victoire, c'est toi le plus fort, victoire, c'est toi le plus fort. Ta seule raison, camarade, vengeance, vengeance pour toi, vengeance, vengeance pour toi. » La foule reprend faiblement 20 voix, 30 voix, chant déjà archaïque, mauvais travail, mobilisation vaseuse, nostalgique, avec fond ukrainien, complètement inadapté à la situation concrète. Ils ne connaissent pas le morceau, et pas davantage les autres couplets de l'international. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Il fait très beau maintenant. Les types des premiers rangs sont cachés sous leurs roses rouges. Avec les portraits plus sombres, ça fait une belle coulée sous le ciel bleu, avec silence mat entre les slogans. Silence, couloir, avec porte ouverte sur nuit, soufflée d'autrefois. De toute façon, le parti a fait une grosse erreur politique. Gauchiste ou pas, t'as vu le nombre ? Oui, mais sans cercueil. Ah, c'est vrai, rien n'est sûr. Tout le monde est étonné, mais quand même, ça doit venir d'assez profond, dans les masses, pour que le truc éclate comme ça en plein jour. Un enterrement petit bourgeois, voilà. Faudrait la classe ouvrière, peut-être. Mais quand même, ils sont là, et bien là, pas ailleurs. Donc, quelque chose demande, demandez, redemandera à être représenté de façon correcte.
Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Car si les
ouais
gens...
Entre ce qui s'est passé en France, convulsion assez rapide, mais transformation profonde de la société, et ce qui se passait en Chine, à savoir déjà depuis 2 ans, 3 ans, la révolution culturelle qui a fait des millions de morts, il n'y a évidemment pas de comparaison possible. Il n'y a pas eu un seul mort, ou il y en a eu un. Enfin, il n'y a pas eu d'affrontement extraordinairement violent en 1968. À part le Auvernais, le Pau, etc., il y a eu un défilé que je raconte d'ailleurs au début d'un roman qui s'appelle H. Il y a la dernière manifestation de masse vraie, j'allais dire. Voilà. Donc, aucun rapport. Mais ce qui était malgré tout comparable, c'est le fait d'une insurrection, qu'elle ait été manipulée comme ci ou comme ça, bon, peu importe. L'insurrection, c'est l'insurrection. L'insurrection, ça veut dire, en termes temporels, que vous pouvez vivre en une semaine quelque chose comme 10 ans de votre vie. C'est ce que Walter Benjamin dit à un moment donné, c'est-à-dire que dans tous les mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu, notamment en 1848, les ouvriers ou les autres ont commencé à tirer sur les horloges. C'est-à-dire le temps est autrement réparti. Vous avez la vie, voilà, métro-boulot-dodo, comme on dit, est-ce que ça a vraiment changé? Non, mais avec le temps contraint, le temps du travail, le temps de l'argent qui vous est imposé et auquel vous êtes bien obligé de vous soumettre. Dans les moments comme ça, où en quelque sorte l'autorité a disparu, l'État s'effondre, De Gaulle est parti, il ne rentre pas. On se demande ce qu'il est devenu. Puis brusquement, c'est le renversement, les Champs-Élysées, le drapeau tricolore, on va dire. Bon. D'accord. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est quand même la vie très, très intense des spectres, hein. Le spectral de l'histoire. La société dans le spectral. C'est-à-dire, là, immédiatement, les discours de recouvrement affluent de partout. Donc, De Gaulle, à mon avis, à l'époque, a très bien compris ce qui est arrivé. Déjà, Pompidou était là. Il a démissionné d'ailleurs un peu après. Voilà, c'était fini. Alors, si vous voulez qu'on mette des notes, ça c'est ce que j'appelle le politoscope. De Gaulle, dans les placards. Très bon premier placard. Ici, Londres. Il y a 8 personnes avec lui à l'époque. Bon. C'était vraiment raté. Impossible. Après ça, il s'est débrouillé. Deuxième placard, l'Algérie. Sans De Gaulle retournant la situation, alors Dieu sait si ça a créé des problèmes. Enfin bon, d'où des tentatives d'assassinat d'ailleurs. Bon. Et troisième placard, il a compris là qu'il n'était plus inscrit dans le calcul de la marchandise. Et en fait, il n'avait plus qu'à s'en aller. Donc c'est pas mal, c'est bon placard.
Lucide.
Bon placard. Mitterrand, premier placard, désastreux. Deuxième placard, désastreux aussi, ministre de l'Intérieur au moment de la répression en Algérie. Troisième placard, veut surfer sur les événements, n'y arrive que beaucoup plus tard. Pas bon.
On reparlera de Mitterrand. Vous ne l'aimiez pas, mais il vous
intéresse beaucoup. C'est pas une question d'amour, c'est une question de précision historique.
C'est bien, mais il vous intéressait comme personnage, on y reviendra.
Ah mais bien entendu, là depuis on n'a plus personne, oui.
La seule prière justifiée en ce monde est donc d'avoir une mort à soi. Une fin facile, douce, insensible. Le contraire de celle de Rimbaud, terrible. Le 10 novembre 1891, à 10h du matin, à l'hôpital de la Conception de Marseille. Amputation de la jambe droite, souffrances atroces et constantes, désespoir de quitter la vie au soleil, même si on admet, et pourquoi pas, le témoignage de résignation finale et d'agonie sainte, écrit par sa sœur Isabelle. La momie, lui, s'est arrangée pour avoir une mort de velours. Précaution de tous les côtés, accompagnement palliatif, Egypt by night, secrète, garantie catholique, consultation métaphysique uniquement pour voir qu'il n'y a rien à voir, détour vaudou, courage, fermeté, soins de notaire provincial, drogues adéquates, lourd sommeil. Cadavre photographié par le principal magazine de la Confédération et bien mis en page dans sa sérénité supposée en regard de quelques autres cadavres célèbres sur leur lit de mort, Victor Hugo, par exemple. Rien à dire, un travail d'orfèvre. La momie se piquait d'ailleurs d'aimer la poésie. Il a même écrit un certain nombre de vers. « Ne soyons pas cruels, » dit Schlein, « ne les citons pas. » Pour le reste, les mystères de Paris ne datent pas d'aujourd'hui. Une pyramide avertie en vaut quatre, mais je m'égare. L'extinction des rois, des princes, des papes, des présidents, des policiers n'est pas mon sujet. La mort n'est pas mon affaire. Bonjour Jean, bonjour Guillaume. J'essaie seulement d'éclairer un peu l'autre côté tellement interdit et fermé des choses, il serait temps. D'où vient pourtant que la momie, dans l'exhibition de sa mort propriétaire et tranquille, semble à côté de la plaque. C'est en somme qu'il était déjà mort et qu'il ne le savait pas, dit Stein. C'est qu'il espérait découvrir pourquoi il était vivant en mourant enfin, dit-il. Son corps ne lui appartenait pas, dit Stein. Je l'ai vu en souffrir. Les incitations, les inclinations, les excitations venaient de plus loin que lui. Il avait fini par s'en apercevoir. Cet état malin n'allait pas croire. Il pressentait sa nature de mort en vie. Il en battait même des cils par moments, comme une poupée. C'était drôle. Au fond, il n'arrivait pas à identifier ce qui se mettait à parler parfois en lui, malgré lui. Même chose pour ses plaisirs, demandés à ses maîtresses les plus lucides. À côté, toujours à côté. Il savait bien sûr qu'on l'avait surnommé la momie là-haut, dans les sphères. Ça l'agaçait, ça l'intriguait. Il voulait en avoir le cœur net. Il était prêt à tout pour percer ce mystère, comme si c'était possible. Qu'est-ce qu'il a pu nous fatiguer? Pourquoi suis-je, moi, distinct de mon corps? Eh bien, il l'a forcé, le mystère il a fini, comme les autres, par tomber dedans. Personne ne lui a rien dit. Il s'est joué la comédie tout seul. Adieu, chère ombre.
Philippe Solers, les hommes politiques vous intéressent plus ou moins, ça dépend, pas toujours. Mais Mitterrand, vous dites, je ne l'aimais pas, mais il m'intriguait. Vous en faites un portrait savoureux dans Studio. On l'appelait la momie, vous le rappelez. Pourquoi vous intriguait-il?
Parce qu'il ne savait pas exactement de quoi il était le porteur. Quand je dis la momie, ça veut dire qu'avec le côté sphinx, je n'ai pas pris l'imagerie populaire, la grenouille, etc. Bon, non, non, ça va beaucoup plus loin. Donc, le côté égyptien, ça c'est le préparatif de mort, la façon qu'il avait d'être lui tout en n'étant pas lui en même temps, hein, comme une marionnette, comme quelqu'un qui... Ça, c'était très, très intéressant parce que la plupart des acteurs politiques, bon, bah, écoutez, ils sont à peu près identiques à eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose à voir, si j'ose dire, derrière et en même temps qu'ils apparaissent. Les marionnettes sont là tout à fait classiques. Mitterrand était une marionnette étrange. Et je trouvais tout à fait étonnant qu'à la fin de sa vie, un peu sur mes traces, si j'ose dire, bon, il s'était épris de Venise. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris quoi que ce soit à Venise, parce que ça demande de venir d'ailleurs que d'Égypte, ou de Charente, ce qui revient à peu près au même, au fond. Commencer la lecture de Casanova. Donc, c'est un déjeuner que j'ai déjà rencontré.
Vous l'aviez rencontré, oui, vous êtes voilà. Allé le retrouver. Ah, donc, et, ouais. Alors, il est allé arriver droit sur vous, d'ailleurs. Ah, voici le terrible monsieur Solers. Il avait une fascination pour le milieu littéraire, quand même. C'était un vrai président littéraire.
Oui, enfin... Il
pour Gallimard, par exemple, où nous fait, sommes aujourd'hui.
Oui, mais il faisait beaucoup semblant. C'est-à-dire qu'il avait des goûts quand même très, très quand limités. Même. Hein. C'est Chardon, et quand on lui parle de Malraux, il répond par Drieu-La Rochelle. Donc, tout ça, sans son...
son terroir d'autrefois, oui. C'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant chez Mitterrand. C'était au fond, c'était un homme très lié par sa jeunesse à la droite, voire même à l'extrême droite. Ensuite, c'est la Francisque avec Pétain quand même, photo à l'appui. Et puis, il devient le candidat de la gauche naturelle. Donc, il y a là une imbrication sous-jacente qui résume en gros l'histoire de ce pays, qui est très étrange, très étrange. Bon, c'est à partir de Mitterrand que le Front National prend son ampleur. Etc. C'est le personnage qui montre le mieux toutes les ambiguïtés grises, comme il aimait dire. Il n'y a pas du noir et du blanc, tout est gris. Tout est gris, le chat est gris dans un pays gris où les habitants sont gris et tout ça évolue vers une grisaille de plus en plus permanente. Bon, il aimait beaucoup Gallimard, voilà, il surveillait Gallimard, ce qui prouve qu'il
ça le fascinait, la maison Gallimard, le lieu où nous sommes.
Oui, bien sûr, l'ordre à la Wehrmacht, en arrivant à Paris, il y a deux endroits à occuper tout de suite, la Banque de France et l'édition Gallimard et la NRF. Bon, donc, vous voyez, tout ça. Et alors, voilà, il arrive, c'est un déjeuner, oui. Et il arrive et... Hein, voilà, le terrible monsieur Solers, hein, bon, alors. Et puis tout de suite, il m'assoit à côté de lui sur un canapé bas. Et il me prend, vous savez, ça, c'est le geste typique, c'est un geste très, suite de l'étude, très mafia, quoi. Il me prend le bras et il me dit, hein, j'espère que vous faites attention à votre santé. Et donc, il s'était renseigné, je ne sais pas comment. Bon. Et j'ai cru qu'il allait m'offrir une boîte de préservatifs. Vous comprenez, c'est ça qui était subliminalement en cours. Après quoi, hein, bon, alors je suis en train de lire les mémoires de Casanova. Alors, j'ai failli lui dire bienvenue au club. Voilà. Il y avait là Octavio Paz, poète surréaliste, prix Nobel, du surréalisme au prix Nobel, en effet, les voix du Seigneur sont impénétrables. Et alors, Octavio Paz commence à ronchonner, nous n'aimions pas, nous n'aimions pas, nous les vrais radicaux, nous n'aimions pas Casanova. Ah bon, hein, dit Mitterrand, qu'il a écarté après de la conversation complètement. Parce que ça manquait du sens du tragique, dit Paz. En effet, Casanova est peu romantique, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, mais qu'est-ce que vous en pensez, hein, comme il n'y a-t-il pas un sens du tragique dans cette urgence de la vie, ça. Et là, il parlait pour lui-même. C'est-à-dire, c'était vraiment vers la fin de sa vie, avec déjà un souci de santé dissimulé considérable. Voilà.
Et
très courageux, ouais. Très courageux Mitterrand, parce que quand il m'a décoré de la Légion d'honneur, il était debout, il lisait sans fiche, il souffrait visiblement atrocement, avec son petit truc de palfium dans la poche, etc. Il devait se faire des injections de morphine continuellement. Il était très cireux, très courageux, il fallait faire 10 personnes à la fois. Au fur et à mesure, j'étais à côté de Victor Del Lito, par le hasard providentiel, c'est vraiment le grand, grand spécialiste de Stendhal. Et là, il s'est trompé un petit peu dans son discours, m'a crédité d'avoir eu le prix féminin, jamais eu le prix féminin, en revanche j'ai écrit un livre qui s'appelle Femme, enfin tout ça se mélangeait un peu dans sa tête. Et après quoi, en m'embrassant, de façon un peu mouillée dans le cou, il m'a dit, ça allait. Donc, personnage, voilà, de spectre intéressant.
Mitterrand, puis Chirac, aujourd'hui Sarkozy, il vous intéresse ?
Oh ben alors là, écoute, non, ça devient autre chose. Écoutez, Chirac, bon, ça va, on a écouté. Abracadabra, tout ça. Plan, on a perdu beaucoup de temps avec tous ces deux présidents. Imaginez-vous quand même que ça fait en tout 7 et 7, 14 plus 12, 26 ans. Ça fait 26 ans que la République s'effondre gentiment, comme ça, hein, au point qu'on peut se demander si le mot a encore un sens, puisque la République, l'école, la République, toutes ces grandes valeurs. Et oui, c'est ça.
Mais qu'avez-vous pensé, vous, de tout ce qui...
Quant à Sarkozy, bon, no comment.
Voilà.
Il faut éradiquer 1968.
C'était ma question.
Le mot éradiqué m'a fait un peu froid dans le dos. Il y avait là des gens bizarres, notamment André Glucksmann, qui était un ami. Je ne sais pas s'il passait par là, justement. Oui.
Pourquoi a-t-il dit ça, à votre avis ?
Sarkozy ? Oh ben ça, c'était son offre d'achat au Front National, rien, bien sûr.
Et un saut quand même important.
Avant l'ouverture à gauche.
Voilà.
Mais la gauche était très contre 1968, donc ça, tout le monde peut s'entendre. Voilà, pour régner, on divise en unifiant, on rassemble, voilà. L'esprit a horreur des rassemblements, dit quelque part Céline.
Et puis oui, vous l'avez mentionné d'ailleurs dans le titre d'un de vos livres qui était H, comme vous l'avez dit, mais vous en avez écrit plusieurs sous l'emprise du H à cette époque-là. C'était important cette découverte du H, et si on fait le lien avec d'autres grands écrivains sur les paradis artificiels.
Ce qui est important à un certain moment, ce sont les excès dans tous les... Voulez-vous lire la petite carte, ce qui est écrit sur la petite carte qui vous tend les bras là? Voilà.
Tout est bon, c'était sur votre bibliothèque, hein, je le prends sur un rayon. Voilà. Tout est bon quand il est excessif, signé Marquis de Sade.
Non, alors ça c'est exagéré si on veut, mais il y a une façon de faire avec sa jeunesse qui est dans la dépense ou pas. Moi, il y a des gens qui n'ont jamais été jeunes et je les vois pas rajeunir avec le temps. Autrement dit, c'est des excès. Que ce soit l'alcool, la drogue pour certains, moi je me suis évité de m'abîmer les os avec de la cocaïne par exemple, parce que ça grand par exemple. Ouais. Bon, le hashish c'est rien du tout, vous savez, il y a des herbes un peu colombiennes un peu plus fortes, on pouvait avoir une transe intéressante, ça révèle surtout beaucoup de choses. Voilà. Puis il y a le rire, le texte de Baudelaire là-dessus est à relire, c'est une merveille. Voilà, donc des excès, j'ai passé des nuits ivres vraiment, très très très, voilà, souvent. Sans parler des bordels ou des choses comme ça, qu'il faut aussi, où il faut faire son apprentissage universitaire.
Et pourtant, quand on lit votre emploi du temps aujourd'hui, immuable depuis tant d'années.
Là, maintenant, je suis un moine taoïste. 6h du matin, petit déjeuner,
ouais. Et pas de cinéma?
Jamais.
J'ai toujours surpris ça. Pourquoi vous n'aimez pas le cinéma?
Parce que ça me fait perdre du temps. D'abord, il faut regarder quelque chose avec des gens. Alors, je regarde ça, là. Quand ça passe un peu à la télévision, je zappe, je prends un film, s'il m'intéresse, je le regarde. Mais rentrer dans une salle pour écouter en même temps que d'autres personnes, voir un film, ou aller au théâtre, ou aller à l'opéra, ou alors... Si c'est Cécilia...
Bartoli, on ne veut pas la manquer.
Qui vient, je vais m'asseoir, et je vais subir la présence et tout ça. Bon.
Vous n'aimez pas? Parce qu'être au cinéma, justement, avec un public qui rit.
Je dois être agoraphobe. Agoraphobe.
Ah oui. Alors, prenons l'exemple de l'Algérie. Vous êtes intéressé à la guerre d'Algérie, vous êtes fait réformer, vous ne l'avez pas fait.
Je suis intéressé du fond des hôpitaux.
Mais, par exemple, le lien qui pourrait être fait aujourd'hui avec le fait qu'enfin, j'allais dire enfin, on fait des films sur la guerre d'Algérie, vous n'êtes pas curieux de les voir, vous n'êtes pas de rentrer dans ce débat autour.
Non. Vous savez, j'ai publié récemment dans le journal du dimanche. C'est pas moi qui l'ai publié d'ailleurs, c'est un rédacteur, je sais pas qui a choisi. Je parlais de Katyn. Katyn, c'est 22 000 Polonais exécutés sur ordre express de Staline d'une balle dans la nuque. Une balle dans la nuque, les soviétiques à l'époque ont prétendu que c'était tout à fait le genre de la Gestapo. Donc on a mis ça sur le compte des nazis. Pas du tout, c'est en 1943. Bon, ce sont bel et bien les Russes. Une balle dans la nuque, ça veut dire qu'il faut donner en même temps un gros coup de pied dans le derrière du type qu'on exécute, parce que sinon la cervelle rejaillit sur l'uniforme. Les femmes des tueurs se plaignaient beaucoup qu'ils rentraient avec des taches de cervelle sur leur uniforme. Vous voyez ? Alors Blokhin, dans Le Secret, c'est un type qui, avant de mourir, vers 84 ans, a réussi à parler à des journalistes anglais. Les Anglais savent beaucoup de choses sur Moscou. Ben oui, il a raconté ça. Ben, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand même, quand chacun avait tué 200 ou 300 types d'une balle dans la nuque, il fallait de la vodka, voyez-vous. Il fallait amener beaucoup de vodka, des camions de vodka. Bon. Alors, dans le journal du dimanche, je écris sur Katyn pour rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde, sans succès. Le livre de Enel Jan Karski, n'en doutez pas. Son succès et en même temps la polémique qui a été déclenchée porte là-dessus. Par conséquent, Blokhin, oui, la photo représente un alignement de corps, un cadavre. Et la plupart des gens me disent « Ah oui, c'est tiré du film de Vajda ». Mais non, pas du tout. Le film Vajda, c'est une reconstitution. Là, c'est de la photo prise par les Allemands eux-mêmes. de ce massacre. Qu'est-ce qu'a fait Staline ? Il avait 200 000 prisonniers. Il a fait une enquête sur l'élite. Avocat, profession libérale, docteur, intellectuel. Quelle était la crème des prisonniers polonais ? C'est ceux-là qui ont été tués, décapitant ainsi la Pologne. C'est très intéressant parce que l'Allemagne et la Russie, la Pologne est un peuple. Alors, la plupart des gens vous diront, ça fait 22 000 antisémites de moins. Ce qui est extraordinairement choquant. Les Polonais sont tous antisémites, comme vous savez, etc. Bon, ça, c'est pas là. C'est pas vrai, parce qu'il y a des justes polonais. Vous prenez ensuite l'insurrection polonaise à Varsovie, 44-45. Les Russes sont pas loin, ils s'arrêtent sur la Vistule. Ils se croisent les bras et laissent les nazis réprimer l'insurrection. 200 000 morts. Je vous rappelle, et on va faire une petite boucle comme ça, que la bataille de la Manche, ce sont les Anglais qui ont tenu, avec un pilote contre quatre de la Luftwaffe, la Royal Air Force, un pilote contre quatre. Et dans ces pilotes, il y avait beaucoup de Polonais. Et Churchill, à ce moment-là, est un mendiant qui supplie Roosevelt d'intervenir. Heureusement que les Japonais se sont bougés sur Pearl Harbor. Parce qu'à ce moment-là, la machine américaine s'est mise en route. Uncle Joe, comme disait Roosevelt de Staline, mais c'est que ça veut dire quoi ? Mais que Roosevelt avait déjà dans la tête le partage de l'Europe. Il y a eu Téhéran, il y a eu Yalta. La Pologne revenait aux Russes. C'est tout. Pour le nazisme, il n'y a pas de question. On vous en parle tous les jours. C'est vraiment, vous n'allez pas commencer à faire du révisionnisme, comme on dit. Mais non, les chambres à gaz n'ont pas existé, patati, patata. Bon, c'est jugé, c'est sanctionné. Mais moi, ce que je remarque, c'est que sur cette histoire des Polonaises, pas seulement elle, mais sur l'histoire de l'Union soviétique elle-même, l'ex, y a un défaut d'information ou un vouloir ne pas savoir qui m'intrigue.
Qui existe encore en 2010, autrement dit.
Oui, Poutine est en pleine forme. Ouais.
Happen to have an extra pair of pajamas, would you?
Wouldn't I? That isn't exactly what I meant. This train seems to be making an unscheduled stop.
Mais le rôle des images, j'y reviens, moi, je poursuis un peu ça. Vous dites, c'est très frappant ce que vous dites. On vous dit c'est une image de Vajda, alors que c'est en réalité une photo
ce
authentique.
Ce qui prouve que les gens vont au cinéma et croient que tout est cinéma.
Oui, mais il y a une valeur pédagogique aussi du cinéma. Elle peut l'être, non ? C'est pas intéressant ?
Je crois pas. Non. Les documents. Je suis scotché le plus souvent sur des documents qui passent sur les chaînes Histoire ou sur les chaînes un peu câblées comme ça. Je regarde attentivement les vrais corps faisant de vrais mouvements dans de vraies situations historiques. Parce que je crois que c'est ça qu'on veut éliminer justement avec le cinéma. Et que je vous assure que je regarde ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Par exemple, la bataille du Pacifique, les kamikazes japonais, c'est incroyable. Voir comment, ce qui se passe à ce moment-là. Regardez, par exemple, ce document qu'on a retrouvé dans une caisse, les libraires. C'est une photo de Rimbaud. Il y a toute une polémique qui s'est développée là-dessus. Et alors, immédiatement, il y a des gens pour dire « Mais non, vous abîmez la légende de Rimbaud, cette photo n'est pas authentique. » C'est Jean-Jacques Lefrère que j'ai salué, justement. Il travaille, c'est un type extraordinaire. Il n'est pas universitaire. Il est médecin. Il a donc un vrai désir de savoir. Un vrai, pas pour obtenir une quelconque diplôme universitaire. C'est autre chose, c'est une passion. La passion, c'est pas du tout quelque chose qui s'enseigne. C'est quelque chose qu'on vit intensément. Hein, c'est comme les historiens d'art qui ne comprennent pas la peinture. Voilà, ou les gens qui sont musicologues et qui seraient incapables de vous dire quelles sont les vraies sensations qu'ils ont avec la musique, ou la littérature d'ailleurs, par exemple, pour les professeurs de littérature. Bon. Donc il faut faire attention. C'est ça le point. Cette photo de Rimbaud est tout à fait étonnante. Et alors, non, ça ne peut pas être lui. Laissez-moi ma légende. Mais pas du tout. Rimbaud était trafiquant d'armes à l'époque. Son hôtel, c'était l'hôtel de l'hiver à Aden. L'univers était son hôtel, si vous préférez. Et il a un air
très intense.
Oui, oui, oui. Les autres ont l'air de coloniaux qui posent. Et lui, pas du tout. C'est une photo très moderne. Vous la mettez, elle est en sépia, mais si vous la transposez en noir et blanc, bah, c'est un type qui passe là. C'était Rimbaud. Bonjour Rimbaud. On parle de vous dans les journaux.
You know, I've been thinking it's not safe for you to roam around Chicago looking for this George Kaplan man you've been telling me about. You'll be picked up by the police the moment you show your face.
Such a nice face, too.
Now, don't you think it'll be a better idea if you stayed in my hotel room while I located him for you? Brought him to you?
Can't let you get involved. Too dangerous.
I'm a big girl.
Yeah. And in all the right places, too.
C'est justement parce que l'histoire m'intéresse énormément que la plupart du temps, le cinéma me paraît à côté du sujet. Il y a un cinéaste, pour moi, indépassable, de même qu'en peinture, c'est Picasso qui ramasse le XXe siècle. Picasso et Céline, vous avez vu? Bon, il y a un cinéaste, un seul, que je trouve génial à chaque minute, c'est Hitchcock. Les films de Hitchcock sont des films métaphysiques. C'est la raison pour laquelle il m'intéresse. Le cinéma m'ennuie lorsqu'il est réaliste, naturaliste, plombé par la société, c'est-à-dire lorsqu'il est trop social, justement. Il ne choque rien de tel. Il prend des situations qui sont purement et simplement métaphysiques. Ce qu'il résume le mieux, c'est son aphorisme donné à Truffaut qui lui demande, voyons, est-ce que vos films ne sont pas tous sous une sorte de malédiction du péché? Est-ce que ça n'est pas dû à votre éducation catholique? Hitchcock est un Anglais catholique, autre anomaliste intéressant. Et l'autre lui répond, mais comment pouvez-vous dire ça? Je décris toujours un innocent dans un monde coupable. Et en effet, vous prenez North by Northwest, c'est-à-dire voilà, le Cary Grant, qui s'appelle Kaplan dans ce film, ça lui tombe dessus, il ne sait pas pourquoi. Du début à la fin, il se demande pourquoi il est poursuivi, pourquoi on veut le tuer, pourquoi...
La mort aux trousses, c'est ça.
Avec la divine Eva Marissin, c'est ce qu'on appelle le suspense et tout ça. C'est une situation métaphysique. Qu'est-ce qu'un innocent dans un monde coupable? Personne n'a fait ça. C'est tout à fait intéressant. C'est donc plus ou moins christique avec humour. Hein, voilà. Vous vous rappelez la scène fameuse, Grant attend un autobus, etc. Bon, rien ne vient, une voiture plutôt, l'autobus passe, puis un avion arrive et le mitraille dans le champ de l'air. Bon, c'est des morceaux extraordinaires. Hitchcock, c'est quelqu'un qui peut vous mettre en face d'un couloir et vous donnez l'impression que quelque chose va surgir brusquement au coin du couloir. C'est-à-dire quelque chose qu'on appelle, encore une fois, le suspense, mais qui vous donne une charge, un poids d'angoisse très particulier. Hein. Deuxième chose, le seul, à mon avis, qui ait su diriger, avec le drôle de corps qu'il avait quand même, qui ait su diriger les femmes. Aucune actrice n'a été aussi bien dirigée qu'Ingrid Bergman, par exemple, dans Notorious en français, je ne sais plus comment ça c'est, ou bien les autres, toutes. Elles sont à leur niveau le plus élevé. Kim Novak, n'en parlons pas. Voilà. C'est-à-dire que l'approche de cinéma, de science sur le corps féminin, c'est Hitchcock. Ailleurs, ce sont des clichés le plus souvent ou des crises d'hystérie absolument inutiles, du surjoué. Là, il arrive à leur faire donner quelque chose d'un érotisme tout à fait singulier. Non, c'est-à-dire l'air de rien.
A big, big favor.
Name it.
I want you to leave right now. Stay far away from me and don't come near me again. We're not going to get involved. Last night was last night and that's all there was. And that's all there is. There isn't going to be anything more between us. So please, goodbye, good luck, no conversation, just leave.
Right away?
Yes.
No questions asked?
Yes.
No, I can't do that.
Please.
After dinner.
Now.
After dinner, fair is fair.
Avez-vous un dé sur votre bureau, un énorme dé?
Pour que vous posiez la question.
C'est un hasard, il est là ou il est toujours là?
Vous venez de dire c'est un hasard, et moi vous réponds, et je vous réponds avec Mallarmé, un coup de
un
dé,
coup de
jamais
dé.
N'abolira le hasard.
Bien entendu.
Vous avez aussi un éléphant?
Un éléphant.
Indien. Et ça, c'est quoi?
Justement, je me demandais.
Ça, c'est indien aussi. Vous avez cet lingam, c'est-à-dire vraiment...
Un lingam, alors je n'osais pas le dire, j'en étais pas sûre.
Mais chère madame, vous pouvez, c'est chez l'union sexuelle présentée, n'est-ce pas, sous sa forme la plus explicite.
Un lingam.
Mais c'est surtout ça que vous devez regarder d'abord, c'est-à-dire un rouleau chinois ramené de Pékin, c'est un poème. Quand un occidental rentre, il croit que c'est une décoration. Quand un Chinois ou même un Japonais rentre, tout de suite, il commence à lire de haut en bas et de droite à gauche, comme vous savez. Et la calligraphie est, à mon avis, très belle. C'est-à-dire que si vous prenez le trait de pinceau, par exemple, de ce caractère-là, vous n'avez pas droit au repentir. Il faut voir des calligraphes, j'ai vu ça en Chine. Il faut voir les calligraphes fonctionner, n'est-ce pas, au souffle, au bras, à l'épaule, le poignet doit être vide et vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est un art extrême qui va avec la peinture d'ailleurs et que vous avez là. Donc c'est l'histoire.
Sous forme de. C'est quoi ça? C'est un panneau de.
C'est un panneau.
Un bon maître
c'est un
de
poème.
C'est un poème.
C'est un poème qui vous raconte. Un moine est à la recherche d'un autre moine, mais pour ça il doit traverser une rivière, arriver dans une montagne pleine de fleurs où il y a des rossignols qui chantent, je sais pas quoi. Et voilà que c'est au-delà du fleuve. Et voilà. Donc en principe, c'est un texte taoïste, si vous voulez.
Et quand vous parlez de la manière dont ces signes sont faits à la main, avec la souplesse du poignet, vous parlez très bien aussi de la manière dont vous ne travaillez qu'avec un stylo et de l'encre bleue, toujours la même. Mmh. L'ordinateur
mais j'ai
tue.
J'ai besoin de ça parce que je. Là encore, je vous ai parlé de magie, c'est un peu ridicule si vous prenez ce mot dans son sens étroit, mais le contact de l'encre, du papier, de l'encre et du stylo, enfin de ce qui. Ça n'a rien à voir avec l'ordinateur, des choses comme ça. Bon, je tape à la machine après parce que je corrige, mais une vieille machine, je suis. Donc, dinosaure, je suis. Et en même temps, j'ai l'impression d'être très en avance par rapport à ce piège qui va prendre tout le monde de plus en plus dans un étau, qui est ce vertige de la communication. Voilà. Tout le monde parle. Tout le monde parle de tout.
Mais vous
tout
aussi,
le monde est qualifié pour parler de tout.
Mais vous aussi, Philippe Solaire, vous parlez de tout. On vous sollicite sur tout.
Ah oui, mais...
Et vous dites toujours oui.
Ah oui, mais c'est pas la même chose que...
On revient dire... à Solaire, ça, c'est personne.
Mais moi, si j'ose dire... C'est un droit que l'on doit mériter. Écoutez, tout le monde croit pouvoir écrire. Je reçois, l'édition Gallimard reçoit, moi j'en reçois 10 par semaine, l'édition Gallimard ça doit être 150 ou 200. Il va de soi que tout le monde pourrait écrire. Quel drôle d'idée! Tout le monde ne joue pas du piano, tout le monde peut être peintre maintenant parce que comme plus personne ou presque ne sait dessiner, je peux vous faire une exposition de peinture, par exemple. C'est une installation culturelle, la culture. En revanche, et c'est pour ça que mon admiration est totale par rapport à ces gens, vous ne pouvez pas faire semblant de jouer d'un instrument de musique. Vous pouvez faire semblant comme Carla Bruni avec sa guitare, mais enfin, de là à vous jouer, si je vous dis venez m'entendre, je vous jouerai une sonate de Mozart ou de Haydn, c'est clair que je ne saurais pas le faire. J'ai la plus grande admiration pour les musiciens et les musiciennes. Et je crois que c'est pratiquement les seuls gens honnêtes qui restent sur cette planète désormais. Parce qu'on ne peut pas tricher.
Avec Philippe Solers. Une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son, Gilles Gallinaro. Mixage, Olivier Dupré. Nous avons rendez-vous à nouveau demain dimanche, même lieu, même heure, avec Philippe Solers, de Tel quel, à l'infini, la vie des revues.